Lacroix sur Europe 1.
Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Europe 1, je suis ravi de vous retrouver pour partager ensemble vos expériences de vie. À mes côtés, ma camarade Ambline, comment allez-vous ?
Ça va bien, bonjour Olivier.
Bonjour, jusqu'à 16h, c'est vous que nous écoutons, vos joies comme vos peines, car votre vécu nous intéresse. Être en colère, agacé, se sentir triste, sous pression ou en proie au stress, toutes ces émotions, somme toute banales, peuvent être plus délicates à vivre quand on les ressent sur son lieu de travail. Il faudrait les contenir, ne pas se laisser submerger, les cacher même comme si de rien n'était. Pour certains, montrer ses émotions serait signe de faiblesse. Pour d'autres, on doit au contraire exploiter ses émotions, en faire quelque chose puisqu'elles se manifestent. Alors faut-il restreindre ses émotions ou les exprimer ? Dans quelle mesure ? En 1990, les psychologues Peter Salovey et John Mayer ont développé le concept d'intelligence émotionnelle. Un moyen d'apprendre à maîtriser ses émotions, à les comprendre et à composer avec. Est-elle utile au travail ? Émotion et travail, est-ce compatible ? C'est notre sujet d'aujourd'hui sur Europe 1. Nous attendons vos témoignages, vos histoires, car nous sommes là pour vous écouter.
Et vous le savez, comme chaque jour, c'est au 39-21 que nous vous écoutons. Le standard d'Europe 1, 50 centimes la minute, via le groupe de l'émission Parle sur la page Facebook d'Europe 1. Vous pouvez nous écrire également sur Twitter avec le hashtag Europe 1.
15h, 16h, partageons nos expériences de vie avec Olivier Delacroix sur Europe 1.
Et nous accueillons Zina sur l'antenne d'Europe 1. Bonjour Zina.
Bonjour.
Bonjour, quel âge avez-vous et d'où nous appelez-vous ?
J'ai 34 ans et je vous appelle de Marseille.
D'accord. Alors Zina, vous avez fait des études de droit, de sciences politiques qui vous ont vite amené à travailler dans la communication pour une grosse entreprise. Au départ, vous essayez de cacher vos émotions, lesquelles et pourquoi ?
Alors, effectivement, je suis quelqu'un qui me suis toujours vécu comme assez sensible et j'ai toujours eu en tête que dans le monde du travail, il faut avoir l'air forte et ne pas montrer ses faiblesses de façon à ne pas déséquilibrer les relations et les rapports de force dans le cadre de cette dynamique. Du coup, quand j'étais vexée par quelque chose ou attristée d'être un peu isolée, j'avais tendance à le cacher, à rester souriante. Si j'étais fatiguée ou que ça me contrariait d'avoir trop de travail, je ne le montrais pas non plus. J'ai toujours caché un maximum mes émotions de façon à garder ce que j'appelle le sourire dentifrice et faire toujours meilleure impression à tout le monde.
C'était une entreprise dans laquelle vous étiez, vous et vos collègues, constamment sous pression, je crois. Cacher ses émotions, c'était un moyen de faire bonne impression, de donner l'impression de garder le contrôle ?
Absolument, c'est de donner l'impression d'avoir l'air fort. J'aime bien la métaphore du bateau, c'est-à-dire qu'on était sur un bateau, en pleine période de tempête, puisqu'on visait un rachat, les places coûtaient cher, le sens de la compétition avait été aiguisé par une politique de ressources humaines qui allait dans ce sens-là. Du coup, pas mal de petites guéguerres, pas mal de petits chéfaillons qui lâchaient un petit peu leur nerf sur les personnes, et ça donnait le tout géographiquement dans un open space. Donc en plus, on est constamment regardé, scruté, commenté. Donc il faut avoir l'air fort, il faut avoir l'air souriant, il faut avoir l'air de bien vivre le truc pour être sûr de rester à bord, pour rester sur la même métaphore.
Donc,
du coup, c'est assez compliqué.
Oui, allez-y.
Oui, c'est assez compliqué. Je disais que on avait tous des façons différentes de les cacher, mais ça finissait toujours par se ressentir parce qu'il y a des personnes qui vont être irritables et ça va influencer l'ensemble du groupe. Il y a des personnes qui disent rien. Moi, ce que je faisais, c'est que je disais rien, mais que j'allais manger quelque chose pour lâcher mes nerfs sur quelque chose. Donc du coup, je pouvais me retrouver à manger n'importe comment juste parce que j'ai ressenti une émotion très forte et que je me sentais incapable de l'exprimer dans le cadre de mon travail.
Mais ne pas montrer ses émotions, c'était se montrer souriante, conciliante tout le temps ?
Souriante, conciliante tout le temps. C'était aussi accepter de prendre des réflexions parfois humiliantes. C'était accepter d'être isolée ou d'être rabaissée en réunion, tout en gardant le sourire, en montrant qu'on est, entre guillemets, flexible. C'est un mot très galvaudé, mais utilisé dans tous les sens en entreprise. Il faut savoir rester adaptable, il faut savoir rester flexible, il faut savoir terminer de travailler tard, il faut savoir sourire, être agréable avec tous ses interlocuteurs. Et finalement, il y a un moment où on fait tellement passer les autres en priorité que le prix est très cher pour soi-même.
À votre avis, alors, pourquoi c'était mal vu de les montrer, ces émotions ?
Il y a beaucoup de gens qui supportent pas forcément les émotions des autres. Le problème aussi, c'est l'interprétation, parce que tout le monde ne sait pas l'exprimer dans la bonne forme. J'entendais en introduction que vous parliez de ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle.
Oui.
J'ai eu l'occasion de le découvrir parce que j'ai fait le choix, après cette expérience douloureuse, de travailler dessus. L'intelligence émotionnelle, c'est la capacité à ressentir et à identifier ses émotions, mais aussi à les exprimer avec les bons mots envers les autres. Parce que si vous savez que vous êtes en colère, vous exprimez votre colère immédiatement, pas forcément dans les bons mots, vous pouvez blesser les gens. Oui. Et beaucoup de gens font cette erreur-là. Il faut savoir identifier, mais aussi savoir choisir le moment et la forme pour exprimer sa colère. Je me suis aperçue que moi, je n'arrivais pas à dire non, par exemple. Je dis tout le temps oui quand on me demande quelque chose au travail, parce que c'était très important pour moi d'être reconnue. Je voulais avoir l'air d'être quelqu'un de très motivée, très ambitieuse, qui avait envie d'apprendre. Je disais oui à tout, même à des moments où il était vital pour moi de dire non. C'est quelque chose dont je me suis aperçue, que j'ai essayé de prendre en main et de travailler. J'ai passé un test qui s'appelle l'EQI, hein. C'est un genre de questionnaire qui vous permet d'établir un profil émotionnel. Et à partir de ce test-là, j'ai pu m'apercevoir que j'avais une empathie trop développée, que j'avais tendance à trop me mettre à la place des autres et pas assez penser à m'affirmer moi-même. Du coup, j'ai fait plein de petits exercices. Je suis en ce moment dans un travail de développement personnel là-dessus. Ça m'aide énormément. Et ça a été l'occasion surtout de me rendre compte qu'on ne peut pas vivre sans ses émotions et qu'on peut vivre beaucoup mieux et beaucoup plus sereinement, non seulement en les acceptant, mais en les exprimant correctement de façon à ce que les autres ne les surinterprétent pas. Et ça, c'est vrai que dans le milieu du travail, surtout dans un open space, on est très vite sujet à interprétation. Il suffit d'avoir mal dormi, de mal comprendre un mot et c'est parti. Enfin, je pense que tout le monde a déjà vécu ce truc-là. C'est pour ça que la solution de prime abord, ça paraît de cacher ses émotions et de permettre un travail dans un milieu aseptisé. Mais on est des êtres humains, on ressent. Et c'est pas quelque chose qu'on peut nier. C'est assez important. Donc, voilà.
Vous restez en ligne avec nous, Zina. Nous allons voir comment cela a joué sur votre morale et comment vous avez su rebondir au sein de cette entreprise. On s'en parle dans quelques instants.
Europe 1. Comme Zina, vous avez dû apprendre à cacher vos émotions sur votre lieu de travail, afficher un sourire à toute épreuve. Venez nous raconter votre histoire au 3921. Vos messages également via le groupe de l'émission sur la page Facebook d'Europe 1. Joie, peur, tristesse, voire dégoût, peut-on laisser s'exprimer nos émotions au bureau? Comment arrivez-vous à gérer les vôtres en présence de vos collègues? On écoute vos histoires en direct au 3921. Vous êtes avec Olivier Delacroix sur Europe 1.
Et nous sommes toujours en ligne avec Zina qui nous expliquait dans la première partie de cette émission devoir être tout le temps sous contrôle permanent, en tout cas son propre contrôle, et finalement avoir une sorte de masque pour ne pas laisser transparaître quoi que ce soit. Avant d'aborder justement ce masque et ce que vous renvoyez, Zina, vous dites que dans ce type de métier et d'entreprise, chacun évolue dans son coin et qu'il n'y a pas d'intelligence collective. Qu'entendez-vous par là ?
En fait, ce qui se passe, c'est qu'il arrive très souvent, pour vous donner un exemple type, que l'interprétation subjective donne lieu à des conflits. Pour vous donner un exemple, vous allez recevoir un mail un vendredi soir qui vous propose une réunion lundi matin. Si vous êtes fatigué et que vous avez travaillé toute la semaine, vous pouvez très bien le voir comme un rappel à l'ordre. Ah d'accord, ok, ma chef veut faire un point lundi matin, elle veut vérifier tout ce que j'ai fait et le prendre mal. Oui. Vous pouvez aussi être de bonne humeur et vous dire, ah ben ça veut dire que ça y est, il est l'heure de partir et d'aller profiter de mon week-end et on se verra lundi matin. C'est très très subjectif l'interprétation. Donc si on se parlait plus, si on communiquait plus, si on était transparent, si je prenais le courage et la peine de vous dire, ah ben j'ai mal compris votre mail de vendredi soir et je vous avoue que j'étais vexée, ben, on a 90 chances sur 100 de finir par comprendre que ce n'est qu'un quiproquo et qu'il n'y a pas lieu d'avoir un conflit. De conflits naissent, c'est un petit peu bêtement dans le cadre du travail, justement à cause de cette espèce de tabou des émotions.
Ce manque de partage finalement qui donne lieu à l'interprétation. À force de ne rien montrer et d'être dans le contrôle, Zina, un jour l'un de vos meilleurs amis vous a dit « Zina, je ne te reconnais plus, tu as l'air malheureuse ». Est-ce que vous vous en rendiez compte? Vous aviez comme un masque en permanence?
Oui, en fait, je me rendais pas vraiment compte parce que j'étais dans le tube. J'étais assez stimulée par ma carrière qui fonctionnait bien. Je commençais à avoir un poste à responsabilité, à me sentir experte de ce que je faisais, mais je sentais bien qu'émotionnellement, ça allait pas. Oui. J'étais isolée dans mon équipe, j'en parlais tout le temps. En fait, ce qu'il me disait, c'est « mais tu parles tout le temps de ton travail, c'est bien ton travail, mais là, tu t'en parles tout le temps en mal, t'as pas l'air heureuse. J'avais pris beaucoup de poids, j'étais devenue insomniaque, enfin, j'étais pas bien dans ma peau, mais je n'avais pas le recul nécessaire pour m'en rendre compte. » Et entendre un de ses proches vous le dire aussi frontalement, bah parfois c'est un réveil qui s'avère salutaire, puisque moi j'ai carrément décidé d'arrêter ce que je faisais à ce moment-là. C'est pas forcément la solution. Chaque personne et chaque histoire est personnelle, hein, donc vous pouvez aussi décider de rebondir autrement. Vous pouvez prendre votre courage à deux mains et essayer d'expliquer à votre équipe ce qui ne va pas. En tout cas, j'avais besoin de cette distanciation parce que j'avais atteint un degré où mon travail me rendait profondément malheureuse. Je me levais le matin et prendre mon métro pour aller travailler était un calvaire.
C'est une décision lourde de sens de quitter ce travail. Pourtant, vous l'avez fait hein, grâce à ce déclic que vous avez ressenti. Maintenant, vous dites que ce n'est pas parce que on ne montre pas ses émotions que l'on est un bisounours. Qu'entendez-vous par là ?
En fait, je lirais plutôt dans le sens contraire, c'est-à-dire que montrer ses émotions ne fait pas de nous un bisounours. Dire « tu m'as blessé tout à l'heure », c'est montrer que je ne suis pas indifférente à ce que tu dis.
Oui.
Ce n'est pas tout simplement être furbeux ou hypersensible. Moi, si j'étais vexée par quelque chose, j'aimais bien le dire. Mais c'était simplement pour essayer de résoudre le conflit, pas juste pour donner l'air d'être hypersensible ou faire ma causette des misérables. Ça, c'était une expression un petit peu dure. Dès que quelqu'un exprimait une émotion forte ou avait les larmes aux yeux, on disait « Ah d'accord, ça y est, c'est causette ». Mais non, en fait, ce n'est ni causette ni les bisounours d'avoir des émotions, c'est être un être humain normal. En fait.
Aujourd'hui, comment vous conciliez vos émotions et votre travail ? Vous avez changé ? Vous évoluez dans quel type de milieu ?
Alors aujourd'hui, je me suis mise à mon compte, hein, ça fait un an maintenant.
Oui.
Je travaille pour différents clients, je fais ce que je faisais avant, c'est-à-dire de la communication, mais cette fois je suis sur des projets qui me tiennent à cœur et que je peux gérer comme je l'entends. J'ai beaucoup travaillé, comme je vous le disais en première partie de l'émission, sur mes émotions.
Oui.
J'ai passé ce test qu'on appelle l'EQI. Je travaille également en collaboration avec le Centre de l'intelligence émotionnelle sur les réseaux sociaux et sur justement toutes ces questions autour des compétences émotionnelles. Le fait de beaucoup lire dessus, de beaucoup travailler dessus, me permet, moi, au quotidien, d'appliquer ces petits exercices qu'on peut retrouver et d'avancer pas à pas dans une vie professionnelle plus sereine où les émotions ont leur place.
Aujourd'hui, en quoi les émotions, puisque vous avez largement réfléchi sur la question, en quoi les émotions peuvent-elles être bénéfiques au travail ?
Ben, déjà parce qu'elles permettent un quotidien plus serein dans la mesure où vous pouvez sérénisé vos relations avec autrui, mais également un meilleur sens de la performance, paradoxalement.
Oui.
Si vous connaissez bien vos émotions et que vous savez dénouer les obstacles plus rapidement, vous devenez plus efficace, vous ne vous laissez pas miner par des choses que vous ne comprenez pas, vous êtes aussi en meilleure santé, parce qu'on ne laisse pas le travail nous attendre, comme quand je vous ai donné mon exemple tout à l'heure. On dort mieux, on est content d'aller travailler, on trouve du sens à ce qu'on fait. Ça aussi, c'est important, la capacité à se réaliser, à donner du sens à ses tâches au quotidien. Et on arrive à travailler autant en intelligence collective qu'individuellement en étant un minimum indépendant. Donc ça ne peut être que bénéfique d'accepter ses émotions dans son quotidien professionnel.
Ouais, et enlever le stress de tout cela permet d'avoir les idées claires et de pouvoir beaucoup mieux se réaliser. Merci beaucoup Zina pour votre témoignage cet après-midi sur l'antenne d'Europe 1. Dans quelques instants, nous accueillerons Sylvie-Alexandre Rocher. Elle est psychothérapeute en logique émotionnelle et elle a créé justement cet institut de logique émotionnelle.
Europe 1. Les émotions ont-elles droit de cité en entreprise ? Selon vous, doit-on obligatoirement porter un masque pour que ça se passe bien ? On vous écoute jusqu'à 16h39-21. Entre 15h et 16h, vous composez le 39-21 pour nous dire aujourd'hui si vous pensez qu'émotion et travail sont compatibles. Comment faire pour ne pas laisser exploser sa colère ou sa joie ? Sur Europe 1, vous êtes avec Olivier Delacroix.
Et nous sommes maintenant en ligne avec Sylvie-Alexandre Rocher, psychothérapeute en logique émotionnelle. Bonjour madame, merci d'être avec nous cet après-midi.
Bonjour.
Sur l'antenne d'Europe. Bonjour. Certains psychologues disent qu'il n'y a pas d'émotions bonnes ou mauvaises puisqu'elles sont, elles existent donc. Mais si chacun se laisse aller à toutes ses émotions, est-ce que ça peut vite être ingérable ?
Alors, il y a deux choses. Hein. Il y a l'émotion comme elle est, qui est un message du corps, qui est un message de notre être vivant. Et puis, il y a ensuite la manière dont nous les exprimons, ce qui n'est pas la même chose. Donc, c'est comment nous allons nous prendre ce message et décider quoi en faire.
Oui.
Voilà, c'est ça l'émotion. Et donc, Zina a dit déjà beaucoup de choses hein, dans son témoignage. Et donc, on voit combien elle s'est, elle, penchée sur le sujet. Et donc, d'une certaine manière, elle a appris à comprendre le message de ses colères, de ses tristesses, de son agitation. Alors, elle n'a pas parlé de tout ça, mais l'émotion, c'est aussi tout ça. Et donc, c'est arriver à prendre le message de l'émotion, et ça s'apprend.
Alors, pourquoi montrer ses émotions est-il perçu comme un signe de faiblesse ?
Alors, ce n'est pas forcément toujours perçu comme un signe de faiblesse.
Hein, dépend des milieux ? Ça dépend des milieux, de votre milieu professionnel, des règles ?
Ça dépend des expressions émotionnelles.
Oui.
Surtout, hein.
Par exemple ?
Par exemple, il y a des formes de leadership.
Oui.
Qui sont déjà une expression de l'émotion, mais qui est acceptée dans le monde de l'entreprise. Parce que ça a du sens, parce que ces personnes-là arrivent à diriger leurs équipes, etc. Donc c'est une forme d'expression de l'émotion qui est un peu mezzo voice, quoi. C'est-à-dire c'est pas une explosion de colère, mais il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'émotion qui s'exprime. Donc c'est pas toutes les émotions.
Alors vous parlez de la colère, Sylvie Alexandre, justement au travail, un homme qui exprime sa colère attire souvent plus cette impression de se faire respecter, hein, d'être respect pour cet homme qui s'impose par des mouvements d'humeur. Chez une femme, souvent c'est mal vu, ces signes de désordre émotionnel. Pourquoi ? Est-ce que de vieux schémas perdurent encore dans le milieu professionnel ?
Bien sûr, je pense que de vieux schémas perdurent. Traditionnellement, un homme, c'est le chef de famille, c'est... celui qui est plus en lien avec l'extérieur, alors que la femme, elle s'occupe plus de sa maison et du soin des enfants, etc.
Oui.
Donc, ces espèces de dichotomies comme ça, l'expression du soin va mal avec la colère. Et donc, on s'imagine qu'une femme n'est pas supposée exprimer la colère. Ce qui est faux, hein, puisqu'on est doté, hommes et femmes, du même système nerveux. Mais il y a aussi des apprentissages depuis tout ce temps et les générations avant nous qui ont aussi appris aux femmes à se comporter d'une certaine façon.
Alors, on écoutait Zina dans la première partie de cette émission qui, comme vous le soulignez, a dit beaucoup de choses et qui nous disait porter un masque jusqu'à ce qu'un de ses amis le lui fasse remarquer. Il lui dise qu'elle était malheureuse. Elle réprimait ses émotions en permanence, hein, Zina. Ça peut être mauvais pour la santé mentale de ne pas laisser paraître ses émotions ?
Alors, ce qu'il y a, c'est que ce qu'elle nous a donné à voir et à entendre, Zina, c'est qu'une émotion en remplaçait une autre.
Oui.
Hein? Donc, ce qu'elle faisait, elle, pour s'adapter et pour rester à bord, comme elle a dit, c'est-à-dire garder son travail, c'est ce qu'elle faisait de cette inquiétude qui était la sienne dans la refondation de la société où les places étaient chères,
oui,
a-t-elle dit. Donc, mettre le masque était la manière qu'elle a eue, elle, d'agir et de réagir pour conserver son travail. Donc, l'émotion, ces sensations fortes, éprouvantes, assez désagréables que nous avons au quotidien, nous poussent à agir et l'émotion fait partie intégrante de nos prises de décision. Donc, elle gardait le contrôle et la face face à ses collègues, face à ses supérieurs. Mais elle nous disait que, au final, elle finissait par manger beaucoup, manger comment et n'importe quoi.
Oui.
Donc, on voit bien qu'il y a un déplacement et que l'émotion est toujours là, d'une certaine façon.
Mais Sylvie Alexandre Rocher, vous qui êtes psychothérapeute et à la tête de l'Institut de logique émotionnelle, que pensez-vous justement du fait de réfréner ces émotions ? Est-ce qu'il ne vaut mieux pas, pour le bien-être de l'entreprise et du milieu professionnel, justement laisser aller les émotions pour que, comme Zina le disait, il n'y ait pas de mauvaises interprétations ?
Alors, je pense que c'est pas pour rien hein, que socialement, on nous demande de réfréner nos émotions, parce qu'il y a une part du système émotionnel, puisque c'est un processus, qui est très archaïque et qui génère la lutte, par exemple, hein, puisqu'on parle beaucoup de colère, et qu'on ne va pas dire « allez-y, battez-vous les uns les autres dans le bureau, par exemple ». D'accord ?
Non,
laissait faire, ça pourrait aller jusque-là. Donc, et en même temps, vous avez tout à fait raison, c'est pas sans prix sur le corps et la santé que d'être toujours dans ce réfrénement, dans cette espèce de contrôle, voire de gestion de nos émotions, Et que la proposition que fait la logique émotionnelle, c'est d'arriver à en comprendre le message et le langage.
Alors parfois, pour tout un tas de raisons, on peut être submergé par ses émotions au travail. Que faire dans ce cas-là ? Quels conseils donneriez-vous à ceux qui sont le plus enclins à sentir ces émotions ?
C'est déjà de ralentir. De ralentir, de se poser et de rentrer en contact avec ce qui se passe à l'intérieur de nous déjà. C'est-à-dire prendre quelques respirations, plutôt que, parce que l'émotion, elle pousse à réagir sur le moment, sur le moment de l'impact. Et donc, en cas d'urgence, il n'y a pas de recette miracle. Donc, il y a déjà un... Je prends quelques respirations, je me pose, je rentre en contact avec ce que je sens, parce que l'émotion, c'est déjà une épreuve, et déjà une épreuve sensorielle. Et ensuite, ça permet déjà de laisser passer ce temps de l'émotion qui, nous disent les neuroscientifiques, ça dure 3 secondes si on ne rajoute pas de l'émotion à l'émotion. Donc déjà, de laisser passer ce temps-là en respirant, en se calmant, et puis de revenir dans la situation avec un peu plus de recul.
Sylvie,
et de choisir ces mots et la manière dont nous décidons, avec un petit peu plus de décision, on veut dire mentale, la façon dont nous décidons de nous adapter à la situation présente.
Sylvie Alexandre Rocher, je rappelle que vous êtes psychothérapeute en logique émotionnelle. Dans quelques instants, nous allons accueillir Alice. Vous restez en ligne avec nous, vous allez continuer à nous éclairer sur ses émotions au travail. Alice a travaillé dans le social et il lui était très difficile de contenir ses émotions. On en parle avec elle dans quelques instants.
Europe 1. Alors les émotions au travail sont-elles des ennemis à combattre ou une énergie à cultiver ? On a envie de vous entendre au 3921, le standard d'Europe 1, 50 centimes la minute. On vous lit également sur Twitter avec le hashtag Europe 1 ou via le groupe de l'émission sur la page Facebook d'Europe 1. Pensez-vous qu'on doit exploiter l'énergie de ses émotions quand on travaille ou au contraire faut-il les taire et afficher un masque impassible ? Vous nous racontez votre histoire au 3921, vous êtes avec Olivier Delacroix.
Et pour en savoir un peu plus sur ses émotions au travail, partagées ou non, eh bien nous allons en parler avec Alice que nous accueillons maintenant sur l'antenne d'Europe 1. Bonjour Alice.
Bonjour Olivier.
Bonjour, quel âge avez-vous et d'où nous appelez-vous ?
Alors j'ai 44 ans et je vous appelle de Martigues.
D'accord. Martigues, quel...
Dans le sud de la France.
Oui, c'est Bouches-du-Rhône.
D'accord. À une demi-heure de Marseille.
D'accord, la chance. Pendant longtemps, pendant longtemps, Alice, vous avez travaillé avec des personnes en situation de handicap. Quel était votre rôle exact auprès d'elles ?
Alors donc, j'accueillais ces personnes puisqu'elles étaient demandeurs d'emploi et qu'elles étaient dans une phase de reconversion professionnelle, bien souvent suite à un licenciement pour incapacité au travail ou dans l'objectif de faire une reconversion toute simple, voilà. Elles traversaient en tout cas une difficulté de santé qui ne leur permettait plus de travailler dans leur métier initial.
Alors, cela doit être un métier qui demande beaucoup d'accompagnement, beaucoup d'empathie, d'énergie. Vous arriviez à laisser votre travail de côté en rentrant chez vous, Alice ?
Non, jamais. Jamais. En fait, même avant de faire ça, j'ai travaillé longtemps dans une mission locale, donc auprès des jeunes aussi en difficulté. Et depuis que j'ai travaillé dans le social, moi j'avais toujours l'impression de ramener les gens avec moi.
Oui.
Parce que c'est un travail qui ne finit jamais. Finalement, même des fois, on travaille un peu à la maison parce qu'il est tellement fastidieux qu'on essaie toujours d'avancer, mais c'est quelque chose qui ne vous lâche pas.
Qu'est-ce qui a été le plus dur pour vous, le plus douloureux à vivre ? Les émotions des autres, de ceux dont vous vous occupiez, ou devoir gérer vos propres émotions ?
Ça dépendait. C'est tout simplement... c'est complexe parce que effectivement, quand on traverse des choses personnelles dans sa vie un peu difficile et qu'on reçoit des personnes des fois qui ont des problèmes un peu similaires, ça peut faire écho. Effectivement, ça peut rendre le travail un peu plus compliqué. On est d'accord.
Ouais.
Et après, il y a des phases où ça va mieux. Et donc, du coup, on arrive vraiment à faire le point et puis à prendre du recul et à se protéger un peu. Mais c'est pas toujours simple. On est d'accord.
Comment est-ce que vous arriviez à vous protéger alors ?
Alors, on trouve ses propres solutions parce qu'on n'est pas forcément accompagné comme il faut dans son travail. Je ne jette pas la pierre à l'employeur, mais c'est des fois, on va voir un psychologue, on fait du yoga, on discute aussi avec d'autres collègues, on essaye de faire un peu une sorte de supervision de bricolage, hein, si je puis dire, parce qu'on n'a pas les outils qui sont créés pour. Et on avance comme on peut. Voilà. Alors,
vous avez peut-être écouté Zina dans la première partie de cette émission, puis ensuite Sylvie Alexandre Rocher. On évoquait le mental, le fait de cacher ses émotions, en tout cas de les réprimer, pouvait atteindre le mental. Est-ce que trop d'émotions vous mettez en péril, vous ébranlez?
Oui, moi ça m'a mis en difficulté. J'ai eu des gros soucis de santé à cause de ça.
Oui.
Parce que le stress, de toute façon, ça joue sur le stress, etc. Et puis la partie mentale, forcément, est affectée. Mais après, je pense qu'il ne faut pas l'étouffer, ça c'est certain. Il ne faut pas étouffer les émotions, quelles qu'elles soient. Je pense qu'elles sont un vecteur aussi de communication et qu'elles viennent nous révéler aussi des choses, peut-être sur nous-mêmes surtout. Est-ce qu'on est à la bonne place? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que ça révèle en nous? Qu'est-ce qui fait écho à ce moment-là lorsqu'on est ébranlé par la situation? Et c'est pour ça que je regrette vraiment de ne pas avoir eu, par exemple, un psychologue au travail, mais oui, sur le lieu de travail, pour pouvoir vraiment déposer quelque part un peu tout ça plutôt que de le garder et puis de le vivre mal.
Souvent c'est un poste qui manque dans le cadre le cadre professionnel, ce psychologue chez qui on peut déposer, comme vous le dites, toutes ces choses. Cela permet en tout cas de communiquer avec quelqu'un et de le partager avec quelqu'un. Zina évoquait dans la première partie de cette émission que finalement, on gardait tout pour soi et peut-être on s'en ouvre le soir à la maison avec son conjoint, mais ça n'est pas du tout évident de s'en ouvrir dans son milieu professionnel. Je me tourne vers vous, Sylvie et Alexandre Rocher. Je rappelle que vous êtes psychothérapeute en logique émotionnelle. Dans ce type de métier qui demande beaucoup d'énergie psychique, comment faire face? Parce que là, on est sur de l'émotion en 3 secondes. Ça me paraît un peu court pour pouvoir prendre du recul. Comment faire face à ce type d'émotion?
Alors, ce qui est sûr, c'est que dans une situation d'urgence, on peut déjà se poser à rentrer en contact avec l'épreuve sensorielle, avec cette intelligence du corps qui se manifeste déjà à court terme. Oui. Cela dit, c'est vrai que dans le cas d'Alice, le fait d'être accompagnée pour, comme elle disait, quoi fait écho, quoi a déclenché en elle cette émotion, il y a vraiment une intelligence dans l'émotion, c'est-à-dire que c'est un message qui nous dit ce qui est bon pour soi et ce qui n'est pas bon pour soi. Et donc, quand nous entrons dans le système émotionnel, c'est pour aller du côté du bon. Donc, nous avons tout un tas chacun d'habitudes, de ouais, stratégies, mais que, le psychologue... l'accompagnement, pour d'autant plus ce genre de métier, l'accompagnement pour arriver à comprendre de quoi il s'agit est vraiment fondamental et important.
C'est-à-dire remonter à la source originelle de cette émotion, c'est ça que vous essayez de m'expliquer?
Alors, originelle, je ne sais même pas si on pourrait monter à la source originelle, mais déjà dans cette situation-là, puisque nous sommes des êtres qui sommes toujours en situation. Oui. Et donc c'est à l'intérieur d'une situation qui a un mot, qui a une certaine posture, une certaine attitude qui vient déclencher l'émotion, qui vient rentrer en résonance avec notre propre vécu, avec notre propre expérience, et qui fait que notre système émotionnel peut être déclenché face à une personne qui a elle-même aussi déclenché quelqu'un qui pleure face à nous pour des raisons X, Y. Ça peut venir en résonance avec des expériences qu'on a déjà vécues soi-même et qui, du coup, déclenchent. Alors, parfois, c'est de l'empathie, mais presque trop peu, parce qu'on veut presque sauver l'autre. Oui. Ou alors, un espèce de recul qui fait que on fait l'indifférent, alors que, de toute façon, dans les deux cas, on est touché, quoi. On n'a pas la même réaction sur le moment, mais en tout cas, dans les deux cas, on a senti l'épreuve de l'émotion.
Sylvie Alexandre Rocher, je rappelle que vous êtes psychothérapeute en logique émotionnelle. Vous continuez à nous accompagner, vous restez avec nous. Merci Alice pour votre appel et votre témoignage cet après-midi sur l'antenne d'Europe 1. Dans quelques instants, nous accueillerons Delphine. Ses émotions, on va le voir, lui ont joué des tours en entreprise.
Et Joséphine, 42 ans, témoigne au 39-21. Je suis une femme dirigeante. Je trouve qu'il est beaucoup plus difficile pour une femme de montrer ses émotions que pour un homme. C'est très mal perçu, traîne encore l'idée qu'une femme est dictée par ses émotions et par ses hormones. Il faut trouver donc un juste équilibre. Mais on n'est pas toujours aidé par ses pairs.
Pas facile.
Non.
Europe 1.
Voilà, au travail doit-on rester en totale maîtrise de ce qu'on ressent, femme et homme, vous nous racontez au standard Europe 1 39-21 pour être avec nous en direct cet après-midi. Quand montrer sa peur a un impact sur ses collègues, quand laisser exploser sa joie agace, peut-on laisser nos émotions s'exprimer au travail sans provoquer une réaction négative de la part des autres? Vous témoignez sur Europe 1, Olivier Delacroix vous écoute au 39-21.
Gravir des montagnes ou se renfermer totalement sur soi-même, nous allons pouvoir en parler de toutes ces émotions avec Delphine que nous accueillons maintenant sur l'antenne d'Europe 1. Bonjour Delphine.
Bonjour Olivier.
Bonjour, quel âge avez-vous et d'où nous appelez-vous Delphine?
Alors j'ai 44 ans et j'appelle de Caluire à côté de Lyon.
D'accord. Alors vous avez travaillé pendant 15 ans dans le milieu du marketing Delphine. Selon vos managers oui. justement, vous pouviez gravir des montagnes, même les déplacer, ou vous renfermer totalement. Comment cela se traduisait au quotidien?
Oui, effectivement, en fonction des managers, puisque en 15 ans, j'ai eu différents types de management, c'est-à-dire que voilà, les personnes dont la façon dont elles relationnaient avec moi ou prenaient des décisions, ou voilà, même elles géraient leur stress. Je voyais que je pouvais soit être très motivée parce que je trouvais ma place, j'atteignais mes objectifs,
oui.
ou alors justement quand j'ai commencé, j'étais avec un manager, je pourrais le qualifier de colérique, et en fait je m'apercevais que je perdais complètement mes moyens. Donc en sa présence, en fait, j'arrivais plus à m'exprimer ou j'allais mélanger mes dossiers, j'étais incohérente dans mes propos, alors qu'en fait dès que j'étais plus avec lui, tout était clair.
Et vous gardiez tout pour vous lorsque vous vous retrouviez devant cet homme?
Bah oui, parce que déjà j'étais jeune et je devais apprendre, donc mon environnement me disait que de toute façon il fallait que je tienne, que je prenne sur moi, donc je me disais non, je vais pas montrer mon stress, je vais parce que sinon je vais montrer quoi, je suis une personne fragile, sensible, ouais. craintive,
ouais.
et puis j'avais envie d'évoluer, quelque part j'avais aussi une ambition et je me suis dit je rentre par une petite porte, mais j'ai pas envie d'en rester là.
Mmh. Alors c'est ce manager dont vous parlez lorsque vous le qualifiez de pervers. Qu'il aimait jouer avec vos émotions, votre tempérament, c'est de
alors celui-là. Ça avait été un autre manager.
Ouais.
Effectivement, il avait, oui, moi je trouvais qu'il avait un comportement pervers. C'est-à-dire qu'en fait, on était à la base assez proches. Donc, je partageais personnellement des choses au travail, je me confiais. Et puis, il a été mon manager au moment où ça a été un peu plus compliqué parce qu'on a une réduction d'effectifs. Donc, à mon niveau, on était quatre et je me retrouvais toute seule. Avec un poste moins intéressant et beaucoup d'opérationnels. Et donc, quand j'étais en confiance avec lui, plutôt avec des émotions positives, je me sentais bien. Et puis, il me disait qu'il allait m'aider, qu'il allait trouver des moyens. Donc, je me faisais confiance. Et puis, en fait, avec le temps, il n'y avait pas forcément de retour. Donc, je pense que j'avais de la colère qui m'habitait. J'avais aussi peur parce que je ne me trouvais pas très bien dans ce poste-là. Et puis, il revenait. Donc, de nouveau, j'avais confiance. Donc,
c'était une manière de vous insécuriser, en fait.
Je pense parce qu'à la fin de l'année, justement, on a des évaluations de fin d'année. Et puis ouais. là, il me disait que je n'étais pas du tout à la hauteur. Donc, et je m'en suis bien aperçue, en fait, la deuxième année, puisque j'ai travaillé énormément. Et à la deuxième année, il m'a dit « enfin, ça remonte. J'avais fait exprès de te mettre la tête sous l'eau parce que je savais que tu avais une certaine fierté.
Ouais. »
Et donc, c'était effectivement pour moi. C'est pour ça que je sentais bien que je n'avais pas su gérer mes émotions. Pour moi, je parlais de stress à l'époque et je me sentais avec beaucoup de stress et d'insécurité.
Mmh. En tout cas, il y a peut-être d'autres moyens de rendre ses collaborateurs performants que de se jouer de leurs émotions et profiter de leur tempérament. Mais bon, chacun voit midi à sa porte. Vous dites que la société veut nous faire croire que montrer ses émotions, c'est être faible, trop sensible. Que répondez-vous à cela ?
C'est vrai, parce que moi, je l'ai vécu. Je l'ai vécu, d'ailleurs, que ce soit à l'école où je le vis encore. Je vois avec mes enfants.
Je ne l'ai pas
pris en compte, que ce soit même dans un milieu familial ou d'environnement général et puis en entreprise, parce qu'il y a beaucoup cet esprit de compétition. Donc, en fait, il faut qu'on montre qu'on est fort. C'est vrai qu'on a assimilé, on nous a toujours appris qu'avoir des émotions, c'était faible. En fait, on ne nous a pas appris à les gérer. On a, depuis longtemps, alors qu'on sait depuis, je pense, les années 90, alors peut-être moins en France, mais en tout cas dans d'autres pays, qu'au contraire, c'est important de les prendre en compte parce que ça permet de prendre en compte la globalité avec toutes ses capacités.
Delphine, redéplacez-vous où vous étiez au tout début parce que je vous perds un tout petit peu, hein, légèrement.
Est-ce que là, vous m'entendez?
Voilà,
ça
parfaitement,
va mieux.
Parfaitement, ça va beaucoup mieux. Vous évoquez vos enfants et c'est vrai que c'est important de voir que dans le milieu scolaire, on commence déjà à les mettre à l'épreuve de ces émotions et que dans une classe, on commence à... Bah, c'est le milieu professionnel hein, de nos enfants. Ces émotions, elles sont déjà le théâtre de jugement, hein, du regard des autres.
Exactement, exactement. C'est toujours le cas aujourd'hui, je trouve, d'ailleurs. Petit à petit, on arrive à les prendre en compte et petit à petit, en fait, on arrive à se dire que oui, les émotions, au contraire, elles sont utiles parce qu'elles nous donnent de l'information sur qui on est. En fait, les émotions, ce sont des ressentis corporels. Ouais. Et en fonction de là où ils se situent, ça nous permet de nous dire « Ah, là, c'est de la peur, ou c'est plutôt de la colère, c'est au contraire de la joie. » Donc, ça va nous permettre de nous ajuster par rapport à la situation. Dire, bah, tiens, là, on ne me respecte pas, donc je vais m'ajuster, je vais leur dire que ça ne va pas. Là, je suis en colère parce qu'il ne m'a pas respecté. Ouais. Et c'est vrai que si on ne le fait pas, en fait, ça nous met dans des situations qui peuvent être très complexes. Et quand on parlait aussi du milieu professionnel, tout ce qui est burn-out, pour moi, il y a vraiment un lien aussi avec ça.
Oui. Alors, on pourra parler justement de selon le manager, parce que certains managers peuvent apprécier que l'on montre ses émotions. Comme cela, il peut interpréter et faciliter certaines choses. Et puis d'autres, comme visiblement les deux managers dont vous nous parliez, Delphine, on peut tomber sur ce type de manager où il est préférable de garder pour soi ses émotions. Vous restez avec nous en ligne, Delphine. On va continuer à parler de votre histoire. Et puis on va pouvoir échanger avec Sylvie Alexandre Rocher dans la dernière partie de cette émission.
Europe 1. L'émotion peut être un moteur dans la vie, une formidable énergie. Qu'en est-il au bureau ? Pensez-vous que les émotions doivent être mises au placard, au travail ? Le 39-21 pour nous raconter comment ça se passe pour vous. Les émotions et le travail sont-ils compatibles ? C'est la question que nous vous posons. Vous êtes avec Olivier Delacroix.
Et nous sommes toujours avec Delphine qui nous expliquait que les émotions qu'elle avait éprouvées au cœur de son travail dans son milieu professionnel eh bien, avaient donné lieu parfois à des situations difficiles avec des managers qui interprétaient ou jouaient avec ses émotions et son tempérament. Delphine, justement, en fait, on parlait tout à l'heure, nous sommes toujours avec Sylvie-Alexandre Rocher de l'Institut de logique émotionnelle. On évoquait l'impact sur sa santé mentale. Est-ce que ses émotions, à un moment, vous avez senti qu'elles vous impactaient et que vous aviez certains comportements liés à ces émotions ?
Oui, alors ça, c'est en relisant, en fait, tout ce qui s'est passé, parce que sur le coup, j'en étais pas consciente.
Oui.
Mais bien sûr, je me suis aperçue que le fait, justement, moi aussi, de les avoir ignorés, c'est ça qui m'a joué des tours, c'est ça qui m'a épuisée. Puisque du coup, quand on dit que les émotions ne sont pas exprimées, elles s'impriment. Et donc, moi, ça me fatiguait de ne pas les montrer.
Oui,
et il aurait mieux valu dans des situations que je puisse dire, mais là, en fait, je suis en colère parce que tu sais très bien que dans mon mode de fonctionnement, j'ai besoin des informations 48 heures avant. Quand tu me les donnes la veille, moi, ça me met en stress. Donc, j'ai du mal à gérer mon dossier ou voilà, de trouver ce genre de communication qui m'aurait permis d'être beaucoup mieux.
Et beaucoup moins sous pression, je suppose.
Exactement.
Alors, exactement. Sylvie Alexandre Rocher, vous avez créé l'Institut de logique émotionnelle. On en parle depuis le début de cette émission. Qu'est-ce que c'est exactement que cet institut de logique émotionnelle et à quelle fin l'avez-vous créé ?
Alors, cet institut de logique émotionnelle, c'est une école. Hein. C'est
oui.
Une école qui a pour objectif de transmettre le processus, le langage de l'émotion et à quoi ça sert. Parce qu'on voit bien depuis le début de l'émission que tout le monde se bagarre avec ça entre gérer, réprimer, ce que ça nous coûte sur le long cours. Et donc, on y perd un peu notre latin entre l'exprimer, mais oui, mais ça n'a pas bonne presse, c'est pas compatible avec des objectifs au travail, etc. Ou alors les réprimer, bah oui, mais au long cours, à titre personnel, ça a vraiment un impact, ça peut aller jusqu'au burn-out, etc. Donc, l'objectif de l'Institut de logique émotionnelle, c'est précisément d'enseigner à tout le monde cette intelligence corporo-psychique, de la façon dont est fabriqué notre cerveau, et que l'émotion ne nous lâche pas, elle nous tient parce qu'elle nous oblige à nous adapter aux situations. Et donc, quelle était la deuxième partie de votre question ?
Ça, ben non, je pensais à quelle fin ? À quelle fin ? Parce que en fait, vous formez des DRH, par exemple ? Vous formez des psys d'entreprise ?
Non, nous, notre intention dès le début, c'était de transmettre comment
notre cerveau fonctionne, comment, quelle est cette intelligence du corps, et que ça concerne aussi bien la mère de famille que, par exemple, vos auditrices, là, ou
oui,
les personnes qui
les
sont
cadres,
intervenues.
Les cadres SUP, les gens qui sont dans le marketing, voilà, ou dans la banque, ou, dans voilà, n'importe quel travail, finalement, parce qu'on peut être,
absolument,
on peut être aussi
ça
dans
concerne,
le milieu du bâtiment. Et,
voilà, ça concerne absolument tout le monde. Et puis maintenant, il y a des praticiens en logique émotionnelle qui se sont spécialisés pour intervenir soit dans le milieu de la santé, soit dans le milieu du management, etc., etc. Donc, ils interviennent auprès des
différents salariés.
Mais ça, c'est pas à, à l'intérieur de l'Institut de logique émotionnelle. C'est plutôt des personnes qui ont été formées.
Et qui sont en mission.
À cette lecture-là. Voilà,
d'accord,
qui l'utilisent dans différents... Mais vraiment, l'objectif de l'Institut de logique émotionnelle, c'est qu'on puisse s'emparer chacun de la manière dont nous fonctionnons et que donc nous pouvons être responsables et prendre en charge, être acteurs de notre propre santé émotionnelle.
Être acteur de notre propre santé émotionnelle. Delphine, qu'est-ce que ça vous inspire, cela, être acteur de votre propre santé émotionnelle? Parce que quel type de situation la plus compliquée vous avez dû affronter, Delphine, à un moment où vous vous êtes sentie vraiment dans l'émotion forte et dans cette fatigue émotionnelle?
Justement, moi, ce qui se passe, puisque j'en ai fait quelque chose de positif à la fin,
oui,
c'est que c'est au moment où j'ai dû quitter mon travail, où j'ai été coachée, en fait, j'ai été accompagnée par un professionnel qui m'a permis de mettre des mots sur tout ça et de comprendre tout ce qui se passait. Et donc, c'est là que j'ai pu récupérer des forces, parce qu'effectivement, j'étais épuisée, j'ai pu reprendre quelque part le contrôle, et au lieu d'être dans des réactions qui répondaient à du stress seulement, alors qu'on peut qualifier après avec les émotions, j'ai pu répondre de façon adaptée à la situation pour pouvoir dire au revoir à l'entreprise en disant, bah voilà, moi, j'ai rééquilibré la situation en partant, parce qu'en fait, forcément aussi, eux voulaient me mettre dehors de façon un peu désobligeante. Et donc,
oui,
j'ai dit, non, ça va être gagnant-gagnant. Justement, on va faire un travail des deux côtés. Et donc, ça m'a permis de rééquilibrer la situation et de pouvoir dire, ben voilà, parce qu'en fait, moi, j'ai un projet derrière qui est celle d'accompagner les personnes à mon tour en faisant du coaching professionnel et en utilisant justement les émotions. C'est à ce moment-là que j'ai compris que c'était indispensable, parce que j'ai compris tout ce qui s'était passé pour moi.
Pouvoir trouver la source, hein, de ces émotions, être responsable de sa propre santé mentale par rapport à ces émotions, c'est ce que nous retiendrons de cette émission. Merci beaucoup, Delphine, de nous avoir appelé cet après-midi sur l'antenne d'Europe 1. Merci aussi à Zina, à Alice de nous avoir appelé et à Sylvie Alexandre Rocher pour ces éclairages. Comme tout être humain, nous ressentons des émotions. Les nier est un non-sens, mais il y a juste un juste milieu à trouver. Nous ne pouvons pas tout montrer tout le temps, mais expliciter intelligemment ce que l'on ressent est vraiment utile. L'intelligence émotionnelle permet cela, contrôler ses émotions pour mieux les vivre. Si le sujet vous intéresse, vous pouvez lire l'ouvrage de Daniel Goleman, L'intelligence émotionnelle, comment transformer ses émotions en intelligence, qui est disponible aux éditions Bantam Books. Et puis, bien évidemment, vous pouvez continuer à échanger sur notre groupe, sur Facebook, sur les réseaux sociaux.
Oui, n'hésitez pas, hein, sur cette émission et sur les autres. On l'a dit déjà plusieurs fois, puisque cette émission, il faut le rappeler, continue de vivre grâce à vous sur les réseaux sociaux et sur Internet. Donc n'hésitez pas à témoigner et à confronter vos expériences. Et puis, il y a aussi Instagram, Olivier Delacroix, officiel.
Europe 1.
Ils sont adultes et ils cachent encore des choses à leurs parents. Si vous cachez encore votre tatouage à vos parents, s'ils ne sont pas encore au courant de votre sexualité ou s'ils ne savent pas que vous fumez, par exemple, eh bien, appelez-nous au 3921 pour nous parler de votre histoire et on vous donnera 2-3 trucs pour avancer de ce côté-là.